Chapitre 32. Le silence. Le même silence religieux qui avait envahi les couloirs du 36 quai des Orfèvres un jour de novembre lorsque des terroristes avaient frappé à plusieurs endroits de la capitale. Comme une vague qui se retire avec une infinie discrétion après s'être fracassée sur la plage et qu'on regarde avec l'espoir de ne plus jamais devoir affronter ça. Mais la vague finit toujours par revenir. C'est sa raison d'être. Plus personne dans les ascenseurs ni dans le hall, juste des gens enfermés dans leurs bureaux ou partis pour fuir, traînés dans les rues ou le métro, pour ne pas assister à cet infâme sacrifice sur la place publique. Même dans la salle de crise, c'était la consternation. On subissait une lourde défaite. Personne n'avait réussi à décrypter le message sur le pacemaker enfoui dans la carcasse. Le groupe Charcot au complet occupait des sièges sans desserrer les lèvres, les yeux sur les écrans. 5 officiers de police judiciaire impuissants, désabusés, ainsi qu'un technicien de la BEFTI en remplacement de Laetitia Chapelier. Malgré leurs efforts, leur nuit blanche, en dépit de tous les fils qu'ils avaient pu démêler, ils ne sauveraient pas les prisonniers. Face à eux tous, sur l'un des écrans, s'affichaient les visages fermés du ministre de l'Intérieur et de Dominique Ladurin, le grand chef de la police judiciaire assis à sa droite. Un autre écran diffusait des chaînes d'information en continu. On alternait entre les plateaux télé, les interviews au bas du bastion, le site internet dans un fouillis indescriptible. Les journalistes étaient dépassés. L'identité de Fabrice Chevalier venait d'être révélée en direct par GECO. La photo agrandie de son CV, la seule dont il disposait, tournait en boucle. De son ton le plus solennel, le procureur de la République demandait aux téléspectateurs connectés au site d'arrêter d'appuyer sur les boutons, car on supposait que chaque clic sous un cylindre libérait de l'eau dans le cylindre voisin. Sauver l'un revenait à tuer l'autre. Mais la requête n'avait aucun impact. Tout allait trop vite, rien n'était préparé. Le flux d'eau coulait de façon quasi continue des trous et déjà son niveau atteignait le haut des mollets de Bertrand et les genoux de Florence, qui étaient plus petites. « Combien de temps il leur reste ?» demanda le ministre. Damien Blancard de la BEFTI se leva et prit la parole après avoir griffonné en pattes de mouche sur une feuille blanche. D'après sa dégaine, t-shirt de black metal, cheveux longs et jeans troués, on pouvait facilement supposer qu'il se décollait de son écran tous les 36 du mois. Il avait apporté son propre ordinateur portable sur lequel était installé le programme destiné à couper d'urgence l'accès au site.
« Ça va aller vite, monsieur. Très vite. J'ignore quelle quantité d'eau chaque clic libère, mais au nombre de connexions, je dirais qu'il doit y avoir au bas mot des centaines de clics à la seconde. En tout cas, je pense qu'il s'écoule là-dedans plus ou moins un demi-litre par seconde. Le volume d'un cylindre d'un mètre de diamètre et de 2 mètres de haut est d'environ 1 mètre cube et demi. Ça fait 1 500 litres. 3 000 secondes.
Moins d'une heure. Pourquoi les gens continuent-ils à appuyer ? Charcot serrait ses 2 poings sur la table.
« Parce qu'ils sont plus de 2 millions, monsieur le ministre, et que même si 99% arrêtent de cliquer, le 1% restant suffit à faire monter le niveau. Tout va beaucoup trop vite. Les requêtes des journalistes ou du procureur n'y changeront rien. Certains se fichent des informations ou ne les regardent même pas. D'autres appuieront, quoi qu'il arrive, pour sauver l'un ou tuer l'autre, juste par envie. » Par sadisme ou par réflexe. C'est une machine impossible à arrêter. Exactement ce que l'ange voulait. Ce n'est pas lui qui tue ces gens, mais chacun d'entre nous.
Certains spectateurs avaient dû s'attacher à Florence ou à Bertrand. Ils devaient éprouver l'envie de leur venir en aide. Sans doute qu'en appuyant, les plus naïfs avaient l'impression de faire une bonne action, de participer au sauvetage.
« Peut-on au moins empêcher les internautes d'appuyer sur ces boutons ?» lança le chef de la PJ. « Les supprimer de la page ?»
Blancard secoua la tête.
« Avec du temps, on pourrait sans doute. Mais pour faire simple, l'ange du futur a rendu le système trop complexe pour qu'on le contrôle en quelques heures.
La seule possibilité que nous ayons dans l'immédiat, c'est de couper l'accès au site et de supprimer tous les fichiers présents sur le serveur. C'est ce qui se passera si je lance le programme contenu sur la clé USB, en espérant que la procédure stoppe le flux d'eau. Mais en prenant le risque que Chevalier mette sa menace à exécution et tue ses gens, objecta le ministre, et que, d'une façon ou d'une autre, ils livrent leur exécution au public. Si on coupe, on continue à avoir un accès, nous ?
Oui, l'hébergeur m'a donné les moyens de me connecter directement au flux vidéo émis par la caméra. Nous serons les seuls à voir ce qui se passe.
Le ministre s'adressa à un interlocuteur hors du champ, puis revint vers l'écran.
« Nous vous rappelons très vite, commandant Charcot. Restez à disposition. »
L'écran devint noir. Sur celui de droite, le spectacle virait au cauchemar. Les prisonniers avaient tenté de boucher le trou avec leurs vêtements, les emballages de nourriture, leurs mains, en vain. L'eau s'infiltrait par le moindre interstice et les rapprochait peu à peu d'une issue fatale. Les niveaux de liquide étaient à peu près équivalents et à ce rythme, ils risquaient de se noyer à quelques minutes d'écart. Nicolas pensait à la femme de Bertrand le Sage, collée derrière son écran, à Laetitia Chapelier, enfermée dans leur mur. Un tel châtiment n'était pas humain. Il se leva. Il ne pouvait pas rester là, inerte. Et pourtant, que faire d'autre pour le moment ? On approchait de 21 heures. Les administrations permettant des recherches plus poussées sur Chevalier étaient fermées. Et quand bien même, ce n'était plus qu'une question de minutes. Il alla s'adosser au mur, les mains dans ses cheveux ébouriffés, et jeta un coup d'œil vers Audra au bout de la table. Elle était blême, un voile translucide de tristesse à la surface des yeux.
Qu'est-ce qu'il attend, bordel ? Il a obtenu ce qu'il voulait. Pourquoi il ne le livre pas, son manifeste ? Pourquoi il n'exprime pas sa pensée, puisque des millions de personnes ont les yeux rivés sur son site ?
Bélanger avait raison. Pas une seule fois Chevalier ne s'était manifesté en chair et en os. Où se cachait-il ? Quel était son plan précis ? Comment allait-il réagir maintenant que toutes les polices de France le pourchassaient ? Lucie ne comprenait pas non plus. Était-il planqué de l'autre côté du rideau ou avait-il fui à l'étranger ? Opérait-il à des milliers de kilomètres de là, derrière un clavier et un écran ? Le schéma du mal avait aussi sa logique. Alors, quelle était celle de l'ange ? Cette mise à mort en direct n'était-elle qu'une étape dans son processus de destruction ? Elle dévia son regard sur les écrans et leurs images impitoyables. L'eau atteignait désormais le haut des cuisses. Florence griffait la paroi, et même sans le son, on pouvait deviner la puissance de ses hurlements. Comment pouvait-on continuer à appuyer sur des boutons ? Au fil des minutes, l'air dans la pièce devenait irrespirable. Tous attendaient le coup de fil du ministre. Aussi dingue que cela puisse paraître, le nombre de connexions continuait à croître. La possibilité de transgresser, de franchir les frontières sans risque de se faire arrêter. De regarder l'insoutenable une fois dans sa vie, comme au Moyen-Âge lors des exécutions publiques. De dire un jour « T'étais là quand c'est arrivé ? Moi j'ai vu, j'ai même appuyé sur le bouton. » Un vrai shoot. L'eau arrivait à présent au milieu du torse de Florence. Si son niveau était inférieur à celui de Le Sage, il y avait fort à parier qu'elle serait submergée la première. Charcot avait soif, mais il se refusa à boire. Chaque geste destiné à satisfaire leurs propres besoins lui paraissait indécent. Enfin, le téléphone sonna. À cet instant précis, chacun retint son souffle. Charcot décrocha et mit deux sons en signe d'approbation, lâcha un
« Très bien, monsieur le ministre !»
et raccrocha. Ses deux mains, qu'il posa à plat sur la table, se rétractèrent comme des araignées brûlées.
« Ils disent qu'on ne peut pas laisser nos concitoyens assister à une noyade en direct, qu'on ne peut pas rester passif. On coupe l'accès. »
Il examina chaque visage, en particulier celui de sa femme, y cherchant du soutien.
existait-il un choix meilleur qu'un autre? Lucie hocha la tête, elle approuvait peut-être la décision. Le commandant se focalisa sur Damien Blancard et souffla du bout des lèvres.
« C'est la pire chose que nous ayons à faire de notre vie. Mais il n'y a pas d'autre solution. Hors de question qu'on les laisse se noyer. Si vous ne voulez pas prendre la responsabilité de lancer le programme, je m'en chargerai. »
Le technicien secoua la tête avec gravité. « C'est mon job. » Il saisit sa souris, opéra quelques clics. Dans un premier temps, la vidéo se figea et signala une erreur de lecture. Puis l'écran tout entier afficha « Page non trouvée » lorsqu'il testa en appuyant sur l'un des deux boutons. « C'est fait. Plus personne n'a accès au site. Je vais maintenant me brancher sur le flux vidéo privé. » Chacun retenait son souffle. Au bout d'une dizaine de secondes, les cylindres et leurs prisonniers réapparurent. L'eau coulait encore plus fort à un rythme continu.
« Pourquoi ça coule encore ?»
s'étonna Charcot. Blancard s'était reculé sur son siège, impuissant.
« Je suppose qu'il y avait un système de sécurité anti-coupure. La destruction des programmes a dû provoquer l'ouverture automatique et définitive des vannes. »«
Faites quelque chose, bordel !»
« Je suis désolé, mais que voulez-vous que je fasse? Les vannes sont dans la pièce, nous sommes ici, et il n'y a plus rien entre les deux, on est coincés. »
Personne ne voulait y croire. Ça ne pouvait pas se terminer de cette façon. Chevalier allait surgir au dernier moment et tout arrêter. Florence et Bertrand ne pouvaient pas mourir. Pas maintenant, pas devant eux. La jeune femme était à présent immergée jusqu'au cou. Encore 5 minutes... et elle se mettrait sur la pointe des pieds, essaierait de nager à la verticale, retiendrait son souffle, plongerait et s'élancerait vers la poche d'air. Mais après, quand le niveau d'eau lècherait le couvercle, Charcot se leva d'un coup et s'adressa à son équipe.
« Sortez! Sortez tous !»
Et puisque pas un ne bougeait, il haussa le ton.
« Ce n'est pas une demande! Fichez le camp de cette pièce !»
Il avait hurlé. Il ignorait comment s'y prendre autrement avec eux, sa petite famille. Audra quitta la salle en premier, à la limite de renverser sa chaise. Blancard, Nicolas et Pascal suivirent, la tête basse. Lucie fut la dernière. Elle essaya de le convaincre de les accompagner, lui aussi, mais l'un d'eux devait rester jusqu'au bout pour rendre des comptes au patron de tous les flics. Il la poussa dans le dos, presque avec force, et ferma la porte à clé dès qu'elle eut franchi le seuil. Lucie resta dans le couloir, immobile, une main plaquée sur la porte. Elle en voulait à l'ange, au ministre, aux assassins, à ce fichu métier qui les détruisait chaque jour davantage. Elle n'en pouvait plus. Elle força sur la poignée pour qu'il sorte. En vain. Derrière, Audra avait disparu dans l'ascenseur sans se retourner. Les regards fuyaient, chacun fixant le sol ou les murs, chacun dans sa bulle. Dans leur bureau, Nicolas cassa un mug avec violence. Lucie se raccrocha à l'image de ses enfants, leur sourire, leur innocence. Bientôt, elle allait rentrer à la maison avec Franck et il les serrerait contre eux de toute leur force, comme si ce jour était le dernier. 24 heures à vivre. Jamais minute ne lui parurent aussi longue. Puis il y eut le déclic de la poignée de porte, et Charcot apparut dans l'embrasure. Il resta figé, le visage déconfit, puis ses lèvres annoncèrent
« L'image a été brusquement coupée, alors qu'ils étaient encore tous les deux en vie. Tout est devenu noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils sont morts. »